Les méthodes pédagogiques que nous utilisons pour l'éducation de nos enfants n'est-elle pas dépassée? C'était la question posée le 12 janvier au Lobis, lors d'une soirée débat animée par Christophe Delédic et Sandra Laugin autour du film Alphabet de Erwin Wagenhoffer, qui fait un tour d'horizon de la France à la Chine en passant par les États-Unis et l'Allemagne et qui s'intéresse à toutes les méthodes éducatives et aux conséquences de nos méthodes actuelles d'éducation.
Pourquoi on est un peu là aussi tous les deux? C'est parce que on nous a proposé d'être parrain de l'école Montessori qui a organisé cette soirée, voilà.
Ben, le but c'est de pouvoir échanger, juste peut-être moi dire un peu ce qu'a fait Echo par rapport au film. C'est vrai que ce que je mesure moi au quotidien quand je rencontre des parents ou des enseignants, c'est l'inquiétude pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer et comment... Bien souvent, on est dans ces questionnements et c'est ce qui va venir régir un peu la façon dont on va éduquer les enfants, nos craintes pour l'avenir. On voit là effectivement deux extrêmes, hein, le modèle chinois et puis le modèle, comment André Stern, on pourrait dire sans éducation. Et le questionnement, c'est en tout cas pour moi, en tant que parent, c'est aussi comment trouver un juste milieu entre le développement de l'enfant, de l'individu, lui offrir son libre arbitre, en sachant qu'il a vécu dans une société et comment il peut agir dans cette société pour la transformer peut-être, enfin en tout cas être un acteur militant de ce qu'il a envie de réaliser. Donc voilà, et ça fait un retour un peu dans toutes les multiples pédagogies qu'il peut y avoir. Et donc je vois que moi, ce film, il m'amène sur tous ces questionnements. C'est est-ce qu'il y a une voie du milieu qui peut être juste, laquelle, comment, et comment naviguer avec tous les courants pédagogiques qui peuvent exister.
Moi, j'ai peut-être une question. Alors, est-ce qu'il y a des professeurs de l'éducation nationale dans la salle, par exemple? Il y en a plein, mais il y en a un seul qui a la main. Parce que du coup, alors moi, j'ai vu le documentaire il y a un mois, avant de programmer, et je me suis dit, peut-être qu'en tant que professeur, je pourrais peut-être me sentir un peu remis en question par ce documentaire. Parce que c'est vrai que ça prend plein d'exemples différents. Ça fait une sorte de tour du monde, enfin... Et au final, tout ce qui se passe en dehors du système scolaire classique, qui, au début, est un peu mis à charge, pour le coup, avec, dans mon souvenir, les concours en Chine. Donc c'était pour avoir un peu un ressenti d'un professeur qui aurait bien voulu prendre la parole pour me dire comment est-ce qu'il a vu la chose.
Alors moi, en fait, je suis jeune prof et depuis que j'ai commencé à être enseignante, je me suis toujours posé plein de questions sur ma manière d'enseigner. Et ce film, je l'ai trouvé très émouvant. Et en plus de ça, c'est vrai que j'ai souvent l'impression qu'on est en train de un petit peu voler nos sens de certains élèves par rapport à leurs réactions. Même moi, quand je suis en classe, j'attends souvent un petit peu des réponses toutes faites. Et je trouve ça très dommage. Et quelque part, ce film, il me rassure parce que tous ces questionnements que j'ai pu avoir, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui les ont également. Et ça me donne confiance en moi dans le sens où j'ai vraiment envie de faire changer ma pratique. Et j'ai vraiment envie de... Voilà, je me dis souvent que j'ai envie de révolutionner ma façon d'enseigner. Et de voir ça, ça me donne encore plus envie de le faire. Je vois tous les jours, je demande parfois à des élèves s'ils ont des passions. Et il y en a plein qui me disent que non, que contrairement à d'autres dans la classe, ils n'en ont pas. Et en fait, ben là, j'ai réalisé ce soir que ben, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, certains, d'avoir des passions, de s'intéresser à des choses. Alors que je me disais, bon, ben, peut-être que ceux-là n'ont pas de centre d'intérêt. Non, en fait, c'est qu'on ne leur laisse pas le temps. On leur donne tellement de travail. Enfin, en collège ou au lycée, enfin, c'est une partie énorme de la journée. Et ça me gêne parce que je me dis, on leur impose ça. Et c'est vraiment dommage. Alors qu'il y a plein de créativité, effectivement, qui est sous-jacente. Et on ne leur donne pas confiance en eux. Et voilà, j'aimerais vraiment, et je pense qu'on peut le faire, mais bon, il faut avoir du courage, il faut se lancer. Et tant pis si au début je vais peut-être me casser la gueule, c'est pas grave, j'ai envie de le faire pour eux, quoi.
Moi, je suis anciennement enseignante, en fait, donc. Et je voulais rebondir sur la peur pour l'avenir, etc., qui est effectivement un moteur et qui explique aussi la pression parfois des parents. Les enfants, eux, sont de moins en moins dupes, hein, puisque les enfants, on connaît le taux de suicide, on connaît, etc. Ils n'ont plus l'espoir autant que nous de l'évolution sociale par l'école. Ils savent très bien qu'il y a 80% de classes au bac, etc. Je ne reviendrai pas trop là-dessus. Mais j'entendais les deux extrêmes. Moi, ça m'a un petit peu choquée comme entrée en matière, puisque moi, je fais partie des parents qui ont été sauvés de l'école par une phobie scolaire de ma dernière. Et donc, c'est pour ça que je ne suis plus enseignante. Je suis sortie de l'école quand j'ai déscolarisé ma petite dernière. Et j'ai découvert un monde, en fait. J'ai découvert ce que André Stern explique. Et vraiment, ça m'a ouvert d'énormes perspectives. Elle m'a déscolarisée, en fait. Mes enfants m'ont déscolarisée. J'ai 5 enfants, c'est la petite. Puis ensuite, les 3 grandes sont toujours allées à l'école, mais les 2 petites n'y vont pas depuis 6 ans maintenant. J'ai découvert, du coup, par mes grandes aussi, des grands enfants qui ne vont pas à l'école, des jeunes adultes, voire des adultes qui ne sont jamais à l'école. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Je pense qu'on a énormément à apprendre d'eux. Et j'entendais cette peur sur l'intégration, sur l'avenir. Alors moi déjà, j'ai appris à vivre au présent grâce à eux et à profiter de leur enfance aussi. Vraiment, ce que j'ai pas fait pour mes grandes. En tout cas, pas autant. Et la peur de l'intégration, ben moi, comme je vois mes grandes, j'ai une grande de 21, ma grande qui a 19 ans là, et son amie qui n'est pas allée à l'école. En fréquentant ces jeunes, je me rends compte qu'ils ont vraiment moins de problèmes d'intégration que ceux qui sont allés à l'école. Je suis parent d'élèves depuis des années pour mes grandes et je vois les problèmes qu'ont les enfants qui sont allés à l'école, pas tous. Et je vois que des gamins épanouis dans ceux qui n'ont pas été à l'école. Ils font pas tous des études, mais ceux qui font des études en font parce qu'ils en ont envie, pas parce que papa-maman dit passer le bac. Donc ils arrivent motivés pour passer un diplôme parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir au boulot qu'ils voulaient faire. Ceux qui font de l'apprentissage, ils le font parce qu'ils en ont envie, pas parce qu'on leur a dit « t'es nul à l'école, tu vas faire un apprentissage ». Et franchement, ça m'a ouvert des super perspectives. Et c'est pour ça que quand j'entends, j'entends aussi pourquoi on peut dire que c'est extrême, parce que c'est marginal, c'est d'avant-garde, je pense. Et moi-même, j'aurais jamais pensé sauter le pas si j'avais pas eu ce vécu avec ma petite. Mais en fait, on a beaucoup à apprendre de ça, et moi je suis en train d'apprendre depuis 6 ans, quoi. Et je suis toujours émerveillée quand je discute avec des jeunes qui n'y sont pas allés.
Alors je voulais rappeler aussi 2 choses, c'est que bon, l'école n'est pas obligatoire, hein, c'est bien, mais en France, c'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, mais et puis on peut se féliciter que bon, la Chine, on l'a vu, est en tête du classement PISA, là, qui cherche à nous formater un petit peu. La France est quand même loin derrière dans le classement. C'est un des pires pays dans le classement PISA.
Bonsoir, je suis un jeune professeur de mathématiques, un vieil ingénieur qui se reconvertit depuis 2 ans. On est de plus en plus nombreux à faire ça d'ailleurs, à croire qu'on découvre qu'on a une vocation tardivement. Je suis aussi papa de 2 enfants et depuis un petit moment, j'oscille entre les scolariser dans une école où je suis impliqué et où je fais avancer les choses, ou les déscolariser. Et cette oscillation, elle est journalière. Du jour au lendemain, on change d'avis. En fait, je me rends compte, plus j'avance, ça fait que 2 ans que j'enseigne, mais plus j'avance à grands pas, parce que j'ai 15 ans d'activité derrière moi, donc ce n'est pas l'enseignement qui va changer ma vie, mais par contre, je change l'avis de mes camarades, de mes collègues qui me détestent. Et donc c'est problématique parce que je suis de plus en plus seul. Heureusement, j'ai un chef d'établissement qui me pousse, j'ai des collègues pas de mathématiques qui me suivent, et quand même, on se rend compte qu'on n'est pas très nombreux. Alors en fait, plus ça va, plus je me dis, soit on fait comme Arnaud Stern ou Léandre Bergeron ou tout un tas de gens qui ont choisi individuellement de changer leur vie et donc celle de leurs enfants, soit plus on se rapproche de la date butoir de l'entrée à l'école, on se dit, bon, ben, finalement, on va trouver une école pas trop mal et on accepte. Et entre les deux, il n'y a pas de juste milieu. Et il n'y a pas de juste milieu parce que ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il soit institutionnalisé et on n'y arrive pas. Alors, il y a les écoles libres. Elles ne sont pas très nombreuses et puis il faut pouvoir se les offrir, c'est pas évident, surtout en cette période. Il n'y a pas de juste milieu parce qu'en fait on ne se voit jamais entre professeurs d'autres écoles, entre professeurs et parents, entre professeurs et militants, on ne se voit pas. Moi je me demande pourquoi on n'arrive pas à faire ça. Et donc il y a toujours la dichotomie entre l'école qu'on ne peut pas changer et les parents qui à un moment donné disent « Allez, j'arrête, je me lance, mais j'y passe tout mon temps, donc j'arrête mon métier, on mange des patates et puis... » De toute manière, je suis tout seul, je vais découvrir des amis au fur et à mesure. Mais... Et ces deux extrêmes se rejoindront jamais. Je vais en finir avec ça. Je potasse à l'heure actuelle la réforme 2016 et aussi l'éducation à la finlandaise. Il y a un lien énorme entre les deux. Je pense qu'il y a une grosse inspiration. Mais si on lit les comptes rendus, notamment de Philippe Mérieux, pédagogue, qui est parti en 2006 en Finlande, il fait une très bonne synthèse. Et il dit en clair, l'état d'esprit finlandais, on l'a pas. Quand on fait un sondage auprès des enseignants finlandais, l'ultra-majorité dit « je suis enseignant parce que j'aime les enfants ». Quand on fait un sondage auprès de la majorité, enfin auprès d'enseignants français, l'ultra-majorité dit j'aime ma matière. Et en fait, il ne faut pas le reprocher au système. Le système, il est un système. On ne change pas un système avec le mode de pensée qu'il a engendré, disait Einstein. Donc, il faudrait que nous, de l'extérieur, nous changions le système. Et comme on ne peut pas le faire, il faut qu'on se regroupe à l'extérieur pour créer une troisième voie, en effet tache d'huile. Je ne sais pas si je suis assez clair, si vous voyez ce que je veux dire.
Bonsoir. Moi, je suis un papa Montessori. Alors simplement, je voulais préciser sur l'association qui gère l'école en Vienne. Il y a effectivement l'activité de l'école, mais il y a aussi d'autres actions qui sont menées. Donc la troisième voie, par exemple, on se regroupe les jeudis midi aux Libertés une fois sur deux, les semaines paires. Donc c'est l'occasion de discuter, peut-être de ne pas être d'accord avec ce qu'on fait, en tout cas d'échanger et puis de se donner la possibilité de dire ce qu'on pense. On a proposé au mois d'avril, on a organisé avec d'autres associations une étape du printemps de l'éducation. Pendant une semaine, on a organisé des conférences, des ateliers, on a invité tout le monde, on a rassemblé, je pense, pas mal d'horizons. Ce sera intéressant de pouvoir prolonger ça. On a aussi proposé à ce que des professionnels puissent échanger dans des temps avec un thème. On se regroupe, on choisit un thème et puis on discute. Je ne sais pas, au sein de l'éducation nationale, il y a sûrement des marges de manœuvre. Au sein des associations, il y en a aussi. Là, il y a peut-être des bons à faire, quoi, simplement.
C'était le thème du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, composé par John Bryan, et nous sommes de retour au Lobbies pour la suite du débat sur nos méthodes d'éducation et leurs conséquences.
En fait, moi, je travaille dans le social. Je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs, et en fait... Globalement, je suis assez d'accord avec tout ce que j'entends, mais j'ai surtout le sentiment en fait que c'est tout le système qu'il faudrait changer du coup. Il faudrait tout modifier parce qu'aujourd'hui, faut pas oublier que pour accéder à l'emploi, faut principalement être diplômé. Même aujourd'hui, pour faire des boulots que moi-même je faisais en travail étudiant il y a 10 ans, aujourd'hui on demande un diplôme pour les faire ces boulots-là. Donc je suis super partagée, il faut trouver des nouvelles façons de faire, il faut effectivement que nos enfants ils soient heureux et ils puissent s'épanouir, mais je crois aussi qu'aujourd'hui pour être heureux, il faut être inséré dans la société, il faut pouvoir travailler, gagner de l'argent. Il y a le témoignage de ce jeune dans le film qui galère, qui vraiment galère, qui est en insertion. Qui est intérimaire, qui gagne peu d'argent, et lui, tout ce qu'il rêve, c'est pouvoir s'acheter une maison et fonder sa famille. Et aujourd'hui, en tout cas ici, enfin en France, c'est le système est comme ça. Si on veut réussir dans la vie, gagner de l'argent et avoir du travail, eh bien, il faut être diplômé, il faut avoir fait des études. Donc j'ai un peu l'impression que tout est à refaire, ou je sais pas, ou peut-être que je vois pas les choses de la même manière, mais en tout cas voilà, je travaille avec des jeunes qui sont en insertion professionnelle et je les vois qui galèrent et du coup ça me questionne aussi par rapport à ça.
Si je peux proposer une lecture, j'ai l'impression avec donc cette petite expérience que j'ai que on cultive ce qu'on appelle la pensée divergente en primaire ou en maternelle primaire, parfois que en maternelle d'ailleurs. Au collège, c'est la pensée convergente. Il faut faire comme ça, tu fais comme ça. Montre-moi que tu as compris qu'il fallait faire comme ça. Sois un bon élève, sois bien scolaire. Et quand on rentre au lycée, il faut avoir une pensée divergente. Tant ici bien qu'on s'entend souvent dire d'un élève au collège qui n'est pas assez appliqué et au lycée qui est trop scolaire. Tout le paradoxe. Et je pense que quand on a réussi à franchir cette étape, cet écueil-là, on s'en sort, c'est-à-dire que rentrer à la fac, on a toute la liberté de s'exprimer, d'être créatif, de s'épanouir et de se préparer à un métier. Si on a franchi ce cap-là, j'ai l'impression que le gros écueil, il est au collège. Peut-être au primaire, mais pour moi, il est au collège. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je cherche à travailler qu'au collège. Parce que j'ai l'impression que quand on franchit le collège avec le cap de l'adolescence, on s'en sort. Et mon inquiétude pour mes enfants, c'est le collège. C'est-à-dire que je suis sur le point d'envisager de les retirer de l'école au collège. Le truc fou. Le moment où ils ont le plus besoin d'avoir des copains et des copines, la sexualité, la découverte du corps, de l'autre. Et paradoxalement, c'est là où les profs, je le vois, sont les plus âpres avec les élèves. C'est là où on s'acharne sur les élèves. Alors le système, on peut peut-être juste ne pas le changer, mais faire qu'il s'adapte. Je parlais de se regrouper entre nous parce que moi, j'entends mes collègues dire des parents qui sont juste insupportables, hyper exigeants, ou alors trop souples, qu'on fait leur travail à leur place. J'entends les parents aussi des fois, parce que j'ai des oreilles qui traînent, dire du mal en permanence des profs qui sont des feignants. J'ai jamais bossé autant de ma vie. Hein. J'ai fait 5-6 métiers différents de ma vie. J'ai jamais bossé autant que depuis que je suis prof. Hein. Ingénieur, je faisais vraiment rien de ma semaine. Je le dis, hein. Et je gagnais deux fois le salaire. Et donc voilà, j'entends des critiques dans les deux sens et c'est juste affolant. Et je me dis que si simplement on se voyait, on aurait la possibilité de s'aimer. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est-à-dire au lieu d'avoir peur, parce que les parents ont peur des profs, même s'ils les respectent plus comme avant. Les élèves ont peur des profs, même s'ils les mettent plus sur un piédestal comme avant. Les profs ont peur des élèves, vous le savez. Et ils ont peur aussi des parents. C'est pour ça qu'ils sont agressifs envers les parents. En fait, voilà, on n'est pas dans l'amour. Alors ce soir, on a parlé d'amour. Léandre Bergeron, que j'ai découvert il y a quelques jours, parlait d'amour. Marshall Rosenberg parle d'amour, en fait, tout ça, c'est la même chose, c'est ce qu'on n'arrive pas à voir. Et à mon avis, ça se joue dans cette période très courte qui est la préadolescence et l'adolescence. Après, c'est réglé. C'est là où il faut qu'on se batte tous ensemble. Quoi.
C'est vrai que je voulais parler, effectivement, de la pression des parents. Hein, quand des enseignants essaient de faire autre chose, je trouve qu'il y a une grosse pression des parents qui ont peur parce qu'ils ont été formatés comme ça aussi. Hein. Voilà, on a été formatés comme ça, donc c'est compliqué de se sortir du système. Et moi, je suis en lien avec des enfants maternels, et je trouve que dès la maternelle, quoi, voilà, dès la maternelle, de toute façon, on formate les enfants, on leur demande de faire des choses à des moments précis, et quand l'enseignant fait un peu autre chose, les parents disent « oui, mais enfin, l'enseignant, il leur fait rien faire, quoi ». Ça, c'est terrible. Hein.
Moi, je veux bien faire écho un peu à ce que vous dites sur la question de la coéducation, où on a eu, il y a trois ans de ça, une réforme des rythmes scolaires qui s'est mise en place. Et moi, j'y suis partie avec beaucoup d'entrain. Je me suis dit, ouais, on va avoir enfin un changement, on va pouvoir enfin faire bouger les lignes et tous travailler ensemble. Et puis, bah, vous voyez, trois ans après, j'ai quitté mon poste. Parce qu'effectivement, la coéducation, c'est pas facile. On y va avec beaucoup d'élan, mais je crois qu'il y a des intérêts qui sont effectivement très divergents. Et le questionnement, je l'ai encore, moi. C'est comment faire pour faire évoluer le système sans en sortir, et je me rends compte que j'en suis sortie, parce que de l'intérieur, je n'y arrivais pas. Donc est-ce que la troisième voie en se regroupant est la piste? Je ne sais pas.
Je voulais poser la question, comment tu as rencontré les personnes non scolarisées?
Par Internet, c'est très facile maintenant de se mettre en réseau. Il y a 5 associations en France et voilà qui mettent en lien les familles. Et puis ensuite, ce qui est rigolo, c'est que ma fille qui parle, elle a toujours été à l'école jusqu'à l'année dernière. Elle a eu son bac S. Enfin voilà, elle a fait le cursus normal. Et c'est grâce à mes deux plus jeunes qu'elle a rencontré ses amis. Et en fait, les amis qu'elle garde maintenant ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est des amis qu'elle a, qui c'est pas ses amis d'école. Donc quand on dit ça socialise l'école, quand on en est sorti, enfin quand on est dans ce milieu-là, on rigole parce que c'est vraiment presque le contraire. En fait, elle a une copine qu'elle a gardée de l'école, mais en fait 60 qu'elle a connue en dehors grâce aux rencontres qui se passent à l'extérieur parce que ses petits frères et sœurs n'allaient pas à l'école. Et c'est très intergénérationnel aussi, ça c'est intéressant. Et ce que disait aussi André Stern sur les diplômes, comme elle le relevait, c'est que maintenant on se trompe complètement sur les diplômes. C'est vrai qu'on nous fait croire que c'est vrai que ça permet de garder toute une classe d'âge qui pointe pas au chômage aussi, hein, qui soit sur les bancs d'école. Mais c'est la compétence. Il l'explique très bien. Vous tapez André Stern sur YouTube, vous allez trouver Dailymotion, j'en sais rien. Mais vous allez trouver, il l'explique très bien. Et c'est ce que je constate moi en fréquentant les jeunes. C'est-à-dire qu'en étant à la maison, enfin, souvent ils ne sont pas à la maison d'ailleurs, mais en étant, en vivant dans la vraie vie, ils rencontrent leurs passions, ils ont le temps de les approfondir, c'est des spécialistes, ils arrivent à se spécialiser, pas de bonheur, hein, ça se passe en général vers l'adolescence, ils arrivent à se spécialiser et être compétents dans ce qu'ils aiment grâce à l'enthousiasme et au temps qu'ils peuvent y consacrer. Et du coup, effectivement, j'en connais pas qui sont sur le carreau, quoi. Contrairement à ce qu'on voit, ceux qui sont laissés sur le carreau du système scolaire. Pour les noms des associations, j'ai oublié de le dire, mais il y a l'EDA, les enfants d'abord, qui est la plus grosse association de France.
Je remercie chacun d'être intervenu et pour cette complémentarité des points de vue et ce cheminement ensemble. Merci à l'école Montessori d'avoir organisé cette soirée quand même.
Merci à vous d'être venu. D'abord. Et encore désolé pour le retard, mais on a été ce qu'on appelle victime du succès. Donc après, toi qui as un débat, c'est de venir un quart d'heure avant. Et comme ça, voilà. Merci à vous et puis à très vite.
Ce débat a eu lieu le 12 janvier au Lobbies autour du film documentaire Alphabet de Erwin Wagenhafer, qui questionne nos méthodes d'éducation et montre ses nombreuses alternatives.